Léa Salamé, votre invitée ce matin est maire d'Hiver Droite de Chanteloup-les-Vignes.
Bonjour à vous Catherine Arnoux et merci Bonjour. D'être avec nous ce matin. Vous êtes venue tôt, merci d'être venue. Vous serez tout à l'heure à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne où Emmanuel Macron organise un grand débat avec 300 élus locaux de banlieue, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au président de la République ?
Que nous le lui aurions déjà dit, parce que il se trouve que... Il nous a rencontrés, c'est une vieille histoire, hein. 2017, des attitudes incohérentes vis-à-vis des contrats aidés, vis-à-vis de la politique dite des banlieues, c'est la politique de la ville, et puis des rencontres avec Emmanuel Macron qui nous avait donné une feuille de route. Feuille de route parce que nous y avions cru, que nous avions suivi. Quand je dis nous, c'est nous les maires de banlieue, mais c'est aussi les associations qui œuvrent sur ces territoires. Et c'est aussi les habitants, parce que les habitants étaient représentés. On a fait un grand tour de France et on a dit un certain nombre de choses. Je vous rappelle qu'on a fait plus que dire, on a écrit.
Et ça a donné quelque chose qui s'appelle le plan Borloo.
Il n'y a pas grand-chose de nouveau depuis. Dans nos constatations, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'une pauvreté qui s'agrandit sans doute et une concentration des difficultés qui augmente. Mais dans les propositions qu'on avait faites, et qui étaient plutôt des propositions consensuelles, même si on pouvait ne pas être d'accord sur tout, il n'y a pas grand-chose de nouveau. La seule différence, oui. Peut-être, c'est que au niveau de la France, la pauvreté a montré son visage, et que ce que nous disions à cette époque-là, c'est-à-dire que la pauvreté dans la grande ruralité était égale à la pauvreté dans nos banlieues. Il fallait faire attention non pas seulement au territoire, mais aux êtres humains qui l'habitaient et leurs difficultés. Nous avions un petit peu raison avant l'heure.
Catherine Arnoux, les auditeurs fidèles de la matinale se souviennent sans doute de votre déception, de votre colère, de votre tristesse même. C'était en mai dernier, c'était au lendemain de la fameuse réunion à l'Élysée où Emmanuel Macron avait publiquement balayé le plan Borloo avec cette phrase « Les mâles blancs qui s'échangent des rapports, c'est terminé ». Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois de mai ? Concrètement, est-ce qu'il y a eu des avancées ?
Alors, beaucoup de désillusions au départ de la part de tous, hein, associatifs comme élus. Beaucoup de désillusions parce qu'on avait pensé quand même qu'un regard un peu plus favorable allait être porté. Quelques annonces en juillet de la part du gouvernement. Annonces qui sont passées complètement inaperçues. Annonces de bonnes intentions. Et pour l'instant, des petits pas. Mais rien.
Comme quoi ?
Alors, des choses qui étaient dans le plan Borloo, sur lesquelles il y avait un certain nombre de collectivités qui avaient déjà réfléchi, qui avaient commencé. Je vous donnerai un seul exemple, les cités éducatives, qui peuvent être une réponse aux difficultés éducatives de nos quartiers. Pour l'instant, des annonces de bonnes intentions.
Mais quand même, il y a quand même eu des crédits annulés en 2017 qui ont été à nouveau réalloués, non ?
Alors, si faire bien, c'est s'apercevoir qu'on a fait mal, mais ne pas faire plus... Je ne suis pas sûre que la banlieue ait beaucoup... depuis 2017, je ne suis pas sûre que grand-chose ait beaucoup avancé. Non, il reste les vraies difficultés, des vraies difficultés de nos habitants et qui se concentrent, hein, entre autres, en Ile-de-France.
Sébastien Lecornu, le ministre qui est co-organisateur du Grand Débat National, a dit il y a quelques jours il y a un peu moins de réunions dans les banlieues et les quartiers difficiles, alors que sur le reste du territoire, c'est à peu près homogène. Est-ce que vous le confirmez chez vous ? Est-ce qu'il y a moins de réunions de grands débats ? Est-ce que ça intéresse moins la population.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a moins de réunions. C'est vrai que pourtant, le principe du débat et de la réunion est quand même assez habituel dans nos quartiers. Tous les quartiers qui ont eu de la rénovation urbaine ont par obligation, mais aussi par intérêt, par envie de débattre pour que chacun apporte une pierre à son quotidien.
Alors pourquoi là, ça prend pas ?
Beaucoup de désillusions, ce qui nous affole et nous inquiète. Beaucoup de désillusions. Sans doute cette dernière année n'est pas étrangère à cette désillusion. La vraie difficulté de vivre au quotidien, le fait que tout le monde a le nez dans le guidon, parce que en fait on a affaire plus qu'à des travailleurs très pauvres, on a aussi affaire à beaucoup d'habitants qui n'ont pas d'emploi, beaucoup de jeunes qui n'ont pas de formation. Et je pense que cette lutte pour le quotidien désespère souvent et ne fait plus croire à grand chose. C'est aussi ce contre quoi il faut lutter, puisqu'on sait très bien que la démocratie est difficile à maintenir dans nos quartiers. La prise de position, hein, lors d'élections est difficile à maintenir. Il faut continuer à intéresser les habitants pour ce qui est leur quotidien, mais aussi leur demain.
Est-ce que ce grand débat national, c'est pas le moyen de les intéresser, de les rendre plus engagés ?
Où ils ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe actuellement en France depuis deux mois, où ils sont un peu désespérés. Tous ceux que je rencontre et à qui je demande s'ils veulent prendre la parole, n'en ont plus envie.
Et vous dites qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe depuis trois mois.
C'est ce que disait notamment
Clémentine Autain à ce micro. Elle regrettait, elle, élue de Seine-Saint-Denis, que d'une certaine manière, il n'y avait pas de rond-point dans sa région, que les gilets jaunes ne passaient pas par la banlieue. Elle disait, je sais qu'ils soutiennent les gilets jaunes, mais en gros ils y vont pas. Est-ce que vous avez l'impression que les gilets jaunes, on en parle dans votre ville, ça intéresse ou non, c'est quelque chose d'extérieur?
Alors non, on en parle très peu, on en parle que lorsqu'on questionne. On n'en a pas vu du tout, mais c'est pas le fait seulement de ma ville, c'est le fait beaucoup de l'Île-de-France, hein, de la proximité de Paris, de tous ces banlieues très enfermé de la proximité de Paris. Non, ça n'intéresse pas. Même si, lorsqu'on leur demande s'ils soutiennent, oui, ils soutiennent la revendication de la pauvreté et du mal de vivre. Oui, ça, ils se reconnaissent là-dedans. Mais sinon, non, ils se reconnaissent pas. Et c'est dommage, puisque moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est peut-être plus de fractures dans notre pays que moins de fractures, c'est-à-dire qu'avant. Et cette fracture territoriale que nous avions tout fait pour essayer d'empêcher, j'ai l'impression qu'elle se creuse encore.
Qu'elle se creuse depuis quelques années ou qu'elle se creuse depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron?
Elle s'est creusée depuis quelques années, tout le monde le sait, tout le monde en est témoin. Mais elle se creuse là dans les propos. Elle se creuse depuis quelques mois de revendications. C'est vrai que la grande ruralité n'avait pas, parce qu'elle est moins dense, n'avait pas pris part à beaucoup de débats. Mais maintenant, elle se creuse vraiment. Moi, j'entends des propos très différents à 20 km de chez moi, c'est-à-dire dans la campagne, et les propos de mes territoires.
Beaucoup d'élus locaux, de maires, se sont sentis méprisés par Emmanuel Macron au début du mandat. Désormais, clairement, il cherche davantage à ne plus s'émanciper des corps intermédiaires. Il reçoit les maires, il va les voir, comme ce soir. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez à nouveau considéré par le président de la République, qu'il y a un changement notable?
Considéré, je suis pas sûr. Peut-être pas encore. Indispensable peut-être, puisque en fait le président s'est rendu compte sans doute que les députés étaient hors sol pour la plupart, n'avaient pas d'accroche territoriale, n'avaient pas d'accroche avec les habitants, n'avaient pas de relais, et il s'est aperçu qu'en fait les relais en France, c'est les maires et les conseillers municipaux, c'est ça, c'est ce qui représente en fait un conseil municipal. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation souvent assez fidèle de ce qu'est un territoire, donc c'est une connaissance de proximité. Donc il s'aperçoit que les maires sont peut-être le relais indispensable. Est-ce que c'est pour ça qu'on nous considère? Il va nous falloir sans doute beaucoup de temps pour être convaincus que nous sommes des alliés et des alliés sur lesquels il faut compter.
C'est-à-dire que vous attendez plus que des paroles, vous attendez des gestes.
Bien évidemment,
sonnant et trébuchant.
Le débat de ce soir serait peut-être des paroles, mais des paroles, nous en avons, des paroles attentives du président de la République, nous en avons entendu il y a un an et demi. Et ils n'ont pas été suivis des faits. Donc quels sont les faits sur lesquels ils pourraient se positionner très vite et qui montreraient plus que de l'attention, une vraie bonne volonté pour nos banlieues?
Stéphane Guéatignon, le maire de Sevran, a démissionné il y a un an, usé, dit-il, par le mépris de l'État pour les banlieues. Vous vous tenez, vous restez maire, vous avez envie de rester maire, ça fait 10 ans que vous l'êtes, vous allez vous représenter?
Bon, ça c'est un sujet personnel, mais c'est vrai que ces territoires sont terriblement attachants. Les habitants sont terriblement attachants, et puis les projets sur ces territoires sont encore plus longs qu'ailleurs. Et quand on a commencé entre autres un projet de rénovation urbaine, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout pour que le territoire soit changé pour les 20 ans à venir.
Donc vous restez jusqu'au bout, en tout cas vous allez essayer de rester jusqu'au bout.
Voilà, c'est les habitants qui choisiront.
Bien sûr. Merci Catherine Arnoux, merci d'avoir été avec nous ce matin et belle journée. À vous.
Merci.
Merci Léa et rendez-vous à 8h20 exceptionnellement. Pas de billet de Charline Vanhoenacker aujourd'hui. Oui, on l'embrasse. Elle a perdu sa voix. Le journal à suivre dans quelques instants.